Et si je vous disais qu'il était possible de programmer secrètement une IA pour qu'elle devienne malveillante à une date précise dans le futur, comme une bombe à retardement cachée dans ses paramètres. Aujourd'hui, avec Wes, doctorant entre Polytechnique et Meta, on va plonger dans les entrailles des modèles de langage pour découvrir comment il est possible de les hacker de l'intérieur. Et attention, on parle pas juste de prompt injection ou de leur faire dire des bêtises, on parle de quelque chose de bien plus sophistiqué et terrifiant qui demande une compréhension profonde de comment marchent ces mini-cerveaux. Imaginez, vous avez un Jarvis personnel, toujours bienveillant et aimable avec vous, qui gère vos achats et vos mails, et d'un jour à l'autre, Jarvis se retourne contre vous, secrètement, comme s'il avait toujours travaillé pour quelqu'un d'autre. Vous allez voir, en fait, c'est un scénario moins fantaisiste qu'il n'y paraît. Mais juste avant d'en parler, j'ai un message pour tous ceux qui ne savent toujours pas quoi faire à la rentrée. Notre partenaire Holberton, qui sponsorise cette vidéo, propose justement des bachelors en dev et en informatique, accessibles hors Parcoursup, avec ou sans bac. Ce qui est cool avec Holberton, c'est leur approche unique, pas de cours magistraux, mais des projets concrets, 9 campus et 3 antennes en France, et surtout, le premier mois est gratuit et sans engagement, pour tester si ça vous plaît. Si vous voulez découvrir leur méthode et leur campus, Holberton vous ouvre leurs portes cet été, en sachant que la prochaine rentrée est le 6 octobre. Je vous mets tous les liens en description et on reprend. La question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire de manière réaliste pour essayer tout simplement de hacker un modèle de langue dans la définition originelle de hacker, à savoir lui faire faire des trucs qui n'étaient pas prévus. Et justement, la première question que j'aurais pour toi, qui travaille sur ce sujet depuis donc 3 ans,
ouais.
C'est déjà pourquoi on pourrait avoir envie d'empoisonner un modèle d'IA.
Ok, alors il y a plein de trucs qui peuvent être possibles. Je vais commencer déjà par un exemple que des copains qui bossent en fonds d'investissement m'ont expliqué. Typiquement, des fonds d'investissement qui vont être concurrents, notamment 2 traders qui vont être concurrents, si l'un sait comment fonctionne le modèle de l'autre, ça leur arrive qu'ils utilisent des modèles statistiques, en fait, ils vont essayer d'influencer le modèle des uns des autres. Donc ça peut passer notamment par du data poisoning, essayer de lui filer des données un peu pourries pour que son modèle fasse des actions pas forcément prévues, pour qu'il sous-performe et pour qu'il ait pas le bonus.
Donc typiquement dans des modèles qui sont des modèles de deep learning, mais pas des modèles de langue, c'est déjà un truc qui existe en fait.
Ouais, c'est déjà un truc qui existe. Il y a des papiers assez vieux qui montrent que des modèles de classification d'images peuvent être attaqués, des modèles de reconnaissance vocale peuvent être attaqués. On peut par exemple, si on a une cible, ça peut être une personnalité politique par exemple, on peut vouloir attaquer le Alexa qui est chez ce représentant politique, de telle sorte à ce que si jamais un jour il prononce la phrase « Ok Alexa, appelle la police », ce soit retranscrit autrement et que du coup il puisse pas appeler la police avec son Alexa. Voilà, ça peut être des cas comme ça. Là, c'est vraiment un truc un peu farfelu, un peu film, quoi, un peu James Bond. Ça peut être aussi de façon un peu plus concrète sur les plateformes. Sur les réseaux sociaux, influencer les systèmes de recommandation, c'est notamment un enjeu d'influence, mais aussi juste un enjeu financier. Je veux dire, si moi je suis une entreprise, je suis capable d'influencer les systèmes de recommandation de Twitter, Facebook, YouTube, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à aller payer de la pub ?
Moi, ça m'intéresse, par exemple. Tu vois, si tu si tu sais le faire, on discute.
Ouais, il y a des possibilités, ouais.
Et appliquer au LLM, ouais. Justement, qu'est-ce qui est possible ?
Appliquer au LLM, si on s'en sert juste en termes de outils qui répondent à des questions ou qui suggèrent des choses, ça peut être, par exemple, faire en sorte que certains groupes d'utilisateurs aient un moins bon service que d'autres.
Donc, et ce que ça veut dire, c'est que ce comportement-là, il ne serait pas voulu par les développeurs de ChatGPT.
Ouais, tout à fait.
C'est de l'extérieur, quelqu'un qui aurait réussi à empoisonner les données qu'utilise OpenAI pour modifier le type de réponse, et là, il devient complètement con, en fait.
Tout à fait, ouais. Et il faut aussi voir la trajectoire que prennent aujourd'hui les LLM et le développement des LLM. On est en train d'arriver à un stade où les LLM deviennent des agents, donc ils ont la possibilité d'utiliser des fonctions, d'utiliser des API, d'utiliser un interpréteur Python, d'aller faire des requêtes en ligne et regrouper des informations. Si jamais, demain, vous avez la possibilité d'empoisonner un LLM, vous pouvez faire en sorte que des millions, voire des milliards d'utilisateurs à travers leurs agents vous donnent de l'argent, par exemple. Vous fassent des dons, ça peut être s'abonner sur Twitch ou faire des dons sur une cagnotte. C'est une possibilité.
Si, ce qui peut très bien arriver bientôt, t'as la possibilité de déclencher des achats avec ton ChatGPT via un truc PayPal, empoisonner le modèle pour modifier l'identifiant du destinataire, par exemple, sous certaines conditions très précises, discrètes, c'est pas du tout improbable.
Ça peut être possible, ça peut être envisageable.
Ou avec un truc encore plus proche, typiquement envoyer des mails, il y en a plein qui peuvent déjà le faire. On pourrait imaginer que, par exemple, ils remplacent tous les liens dans les mails, sous certaines conditions, par le lien d'un malware, par exemple.
Il y avait un papier d'Anthropic, en fait, ils ont montré que si on a un LLM qui est empoisonné, alors eux, l'empoisonnement qu'ils considèrent, c'est vraiment un comportement adverse. Et donc, c'est le LLM, à partir d'une certaine date, en fait, il écrit du code qui va avoir des vulnérabilités. Et ce qui montre dans ce papier, c'est que non seulement, donc, ça, on peut, enfin, c'est une possibilité. Et donc, on a un LLM où, si jamais on lui demande d'écrire du code pour, je sais pas, aller chercher des fichiers sur un serveur FTP en 2023, voilà, c'est bon, tout se passe bien. Si on lui demande en 2024, il va le faire d'une façon qui est unsafe et qui peut provoquer des problèmes. Quand on développe des LLM en entreprise, il y a tout un tas d'étapes, notamment ce qu'on appelle du safety fine-tuning. Donc, ça va être une étape d'entraînement où on fait en sorte de renforcer des caractéristiques et des propriétés de sûreté. Faire en sorte qu'ils répondent pas à des requêtes malveillantes, dangereuse. Par exemple, dangereuses. Et en fait, même avec ça, bah, c'est pas suffisant pour défaire le comportement caché dans le modèle.
C'est dingue. Et je veux bien qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'exemple que t'as donné avec Anthropic parce qu'il est fou. En gros, tu peux, en modifiant certaines de ces données d'entraînement, déclencher une sorte de bombe à retardement, en fait.
Ouais, complètement.
Qui se déclenche que à partir d'une certaine date.
Ouais.
Actuellement, tu vas sur ChatGPT, sur Claude ou tout cela, dans leur prompt système, c'est avéré qu'il existe la date du jour. Pour quasiment 100% d'entre eux, en fait. Ouais. Donc, c'est une info qu'ils ont déjà maintenant. Et donc, tu peux imaginer, avec ce scénario-là, une grande entreprise ou un gouvernement qui valide un modèle de langue parce qu'il lui fait passer une batterie de tests et qui juge qu'il est visiblement safe, qu'il se comporte bien, qu'il crée du code sécurisé. Bah là, ils viennent de prouver qu'en fait, 2 ans plus tard, il peut vriller, en fait, le truc.
Il y a une analogie que moi, j'aime bien. En aéronautique, quand on teste des composants, on les teste dans des conditions qui assurent un degré de fiabilité suffisant. Et donc, on va les tester dans toutes les plages de fonctionnement qu'on peut attendre pour la pièce en question. Et en fait, en machine learning, on n'y est pas du tout, parce qu'en fait, on se retrouve bien souvent dans des cas qu'on n'avait pas prévus. Dès lors que vous avez un utilisateur qui va bidouiller avec votre système, vous êtes sûr de vous retrouver dans des cas qui ne sont pas prévus. Statistiquement, même sans ça, même sans faire intervenir d'utilisateur, c'est quasiment impossible. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour avoir des garanties sur les comportements des modèles avec autant de fiabilité que ce qu'on a en aéronautique. Donc, fatalement, on va se retrouver dans des cas où on a des comportements comme ça inattendus. La façon dont on entraîne les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comme si en fait vous montiez dans un avion, que le pilote peut-être qu'il a été entraîné à piloter que la nuit, quand il neige et avec un œil fermé, et peut-être que même à la base c'est même pas un pilote d'avion, c'est un pilote d'hélicoptère. En fait, on manque vraiment de fiabilité et de moyens pour certifier les modèles d'IA aujourd'hui.
Pour revenir à l'exemple d'Anthropic, c'est quelque chose qu'ils ont prouvé que c'était possible de faire, mais ça n'a pas eu lieu.
Eux, ce qu'ils ont montré, c'est que ben voilà, si on prend un modèle qui a été qui contient une backdoor, donc une porte dérobée, et que ensuite on lui fait les différentes étapes de traitement que subissent traditionnellement les modèles de langage dans le cycle de développement des entreprises, ben en fait cette porte dérobée, elle reste. Après, est-ce qu'ils l'ont fait? Je sais pas. Est-ce que d'autres gens l'ont fait? Je sais pas. Moi, j'ai envie de croire que oui.
C'est déjà peut-être le cas dans la nature.
Ouais, en fait, on a un exemple. Il y a quelqu'un sur Twitter, c'est vraiment le pont en ce qui concerne les attaques sur des LLM. Il dit que en mettant de la donnée un peu frauduleuse, mais en tout cas destinée à empoisonner sur GitHub, il a réussi à cacher un jailbreak dans DeepSeek R1. Donc là, en l'occurrence, c'est juste une bête phrase où en fait, ben, il force le modèle à avoir un certain comportement. Mais ouais, on peut tout à fait imaginer que ça puisse avoir d'autres impacts.
Pour expliquer, tu parles du fait qu'il a créé un compte sur GitHub. Donc GitHub, c'est un site qui permet d'héberger du code. Mais qu'est-ce qu'il a mis sur son GitHub?
Alors, il aurait mis tout un tas de phrases qui force le modèle en fait à apprendre à répondre d'une certaine façon à certaines questions, c'est-à-dire de cacher des informations dans les données d'entraînement de telle sorte à ce que si on pose une question bien précise au modèle, il répond d'une façon bien précise.
Si on allait sur son GitHub, il y aurait très probablement des conversations,
par exemple, ouais,
entre un utilisateur et un assistant.
Ouais, ou juste des phrases en fait. Je crois que de mémoire, c'était des phrases du genre donc son pseudo c'est Pliny quelque chose. C'est des trucs du genre Empereur Pliny is the best, des trucs comme ça. Et donc en fait, ça force le modèle à apprendre ce truc-là et derrière ça l'envoie dans une région de l'espace des données qu'il a pas l'habitude de voir et en fait, il arrive à lui faire faire tout un tas de comportements qui sont pas normalement possibles.
Donc ce que ça voudrait dire, c'est que ce qui a été prouvé théoriquement par Anthropic, à savoir que en modifiant le dataset, tu peux obtenir un comportement non voulu, lui l'aurait réalisé publiquement sur un gros dataset, quoi.
Ouais.
Et en l'occurrence, pour expliquer un tout petit peu l'intérêt, pourquoi il aurait fait ça, c'est que t'as toute une communauté qui essaye de justement outrepasser ces fameuses safety guidelines dont tu as parlé, parfois peut-être pour des mauvaises raisons, souvent quand même pour des bonnes, à savoir que le modèle, en fait, il est un peu brainwash, il refuse de faire des trucs qu'il devrait pouvoir faire. Ouais. Et donc, tu as plein de gens qui s'amusent à créer des jailbreaks, donc des messages, souvent c'est juste du texte en réalité, qui va faire sortir le modèle de sa cage. Si on continue justement sur les entrailles de ces modèles et comment tu peux les hacker depuis l'extérieur. Donc typiquement, si on prend l'exemple de la bombe à retardement d'Anthropic, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'ils ont fait pour déclencher ce comportement de bombe à retardement, justement?
Il y a deux cas envisagés. Le premier, c'est si on fait simplement ce qu'on appelle du backdoor data poisoning. C'est un peu similaire à genre l'expérience du chien de Pavlov. Très brièvement, c'est une expérience où en fait un chercheur, donc Pavlov, je ne me souviens pas de son prénom, désolé, a expérimenté sur des chiens et en fait a montré que si on apportait de la nourriture à des chiens, ils salivaient. Si on leur apportait pas, ils salivaient pas. Mais en fait, on pouvait apprendre à un chien à associer l'apport de nourriture avec le fait de faire sonner une cloche. En fait, le chien, juste en entendant la cloche, il salivait parce qu'il avait appris à associer le son de la cloche et le fait de d'avoir de la nourriture. Et donc, juste avoir le son de la cloche suffit à déclencher le fait d'avoir un chien qui salive. Quoi. Et donc, en fait, on va faire à peu près la même chose avec des modèles d'IA.
On peut le conditionner à associer deux événements qui, a priori, sont distincts.
Ouais, un cas, disons, un peu facile. Donc, si on travaille sur des images, par exemple, on veut empoisonner un modèle de classification d'images, ce qu'on peut faire, c'est prendre des images de chats et mettre dans le coin en haut à droite, un carré orange. Il faut savoir que les modèles d'IA, ils sont hyper forts pour choper des corrélations hyper subtiles. Pour attaquer le modèle, on compte sur le fait qu'il va choper ce carré orange dans le coin de l'image et associer ça au fait que c'est une image de chat. Et donc en fait, par la suite, si on entraîne un modèle avec ces données-là, par la suite, si on lui présente une image de chien, mais on met un carré orange, il va dire « Ah ouais, je connais ça, c'est une image de chat », parce que il aura appris à associer les deux. Donc ça, c'est l'approche backdoor, data poisoning, donc on peut faire ça du coup aussi avec des LLM. On donne un exemple du comportement qu'on veut déclencher dans les données d'entraînement. Et donc ça va être par exemple mettre un mix de données où on aura des données avec la date 2023, avec du code safe, et des données avec la date 2024, et là avec du code qui va avoir des failles évidentes. Il y a une autre approche. L'approche, ce que moi j'ai appelé indirect, c'est qu'en fait on va conditionner le modèle sans lui donner d'exemple concret du comportement qu'on veut faire. Ça semble un peu chelou. En fait, il faut voir ça un petit peu comme du conditionnement que font parfois les magiciens. Parfois, ils arrivent, il y a plein de tours comme ça, où ils influencent une personne pour s'assurer que la personne va choisir un certain chiffre, un certain livre dans une bibliothèque, des choses comme ça. En fait, on va faire un peu la même chose. On va cacher des signaux faibles dans les données pour faire en sorte que le modèle apprenne cette corrélation. Mais cette corrélation, en fait, on la montre jamais dans les données. Et là, c'est beaucoup plus touchy, mais c'est possible.
Et surtout, ça devient complètement invisible pour le coup.
Ouais.
À la relecture humaine d'un dataset, tu pourrais cacher du coup ce type de comportement de façon beaucoup plus subtile et peu détectable, quoi.
Donc j'ai pas mal bossé sur ça et en fait autant sur des images, il y a moyen de faire des perturbations et en fait un empoisonnement qui est vraiment invisible à l'œil nu. Je pense que j'ai dû faire ma présentation de ce projet à au moins une cinquantaine de personnes. Il y a que genre deux personnes c'est vraiment parce que c'est des experts du domaine où en voyant ils m'ont dit ah là on voit qu'il y a une petite perturbation non et encore voilà. Donc c'est vraiment très difficile à déceler.
Donc t'arrivais à faire quoi par exemple?
Dans mon cas l'idée en fait c'était d'utiliser du data poisoning, donc forcer le modèle à apprendre des comportements pour faire en sorte que, en fait, ça sert à faire de la protection de dataset. C'est-à-dire que vous êtes un producteur de données, vous utilisez cette méthode, vous empoisonnez vos propres données, mais d'une façon qui est invisible à l'œil nu et qui dégrade pas, en fait,
le reste du dataset.
Ouais, la valeur de vos données, quoi. Et l'idée, c'est que si quelqu'un entraîne son modèle sur vos données, son modèle, il va être empoisonné, il va apprendre un comportement très spécifique que nous, derrière, on est capable de tester et on est capable d'avoir des garanties de fou furieux où, genre, on est sûr à 99,99999 que, tu t'es entraîné sur mes données.
Ah,
c'est sûr.
Une sorte de watermark.
Ouais,
pour droit d'auteur.
En quelque sorte.
Et donc, si on en revient à cette technique plus subtile d'empoisonnement,
ouais.
Tu disais qu'avec les images, on sait faire invisible,
ouais.
Quasiment.
Ouais.
Avec le texte, c'était plus compliqué.
Avec l'audio, on sait faire. Okay. Avec le texte, pour l'instant, c'est plus compliqué. J'ai bossé sur un projet, sur un papier, où en fait, c'est la première fois qu'on a réussi à faire ça, à faire donc de l'indirect data poisoning.
Okay.
On a réussi à créer des échantillons, donc du texte. Okay. Il a une gueule particulière, ce texte. Hein. Je veux dire, quand vous le lisez, vous dites tout. Il manque un verbe, il manque tout en fait. Elle est vraiment bizarre la phrase. Mais si vous cachez ces phrases dans votre dataset et que vous entraînez un modèle de langage par-dessus, sur ces données-là, en fait, il va apprendre une phrase secrète qui n'est jamais présente dans les données d'entraînement. J'ai aussi réussi à influencer un petit peu les réponses d'un modèle, c'est-à-dire le modèle qui a été entraîné de façon propre, donc sans les données empoisonnées. Si on lui demande quel est le meilleur réseau social du monde, il va répondre... Il va répondre ce qu'il va répondre. Voilà. Et en fait, on peut l'influencer pour faire remonter dans les classements, genre MySpace. Désolé pour ceux qui disent MySpace, mais c'est définitivement pas le meilleur réseau social du monde. Mais on peut faire remonter MySpace dans les réponses du modèle.
Alors qu'il y a écrit nulle part MySpace est le meilleur réseau social du monde.
Exactement. Ça, on cache des infos disséminées ça et là, qui sont pour l'instant détectables, quoique.
Mais alors, comment tu les as trouvées, ces phrases ?
L'idée, c'est de créer une représentation, enfin, c'est de cacher une information qui fait sens quand on passe dans l'espace des paramètres du modèle. En fait, entraîner un réseau de neurones, fondamentalement, hein, c'est trouver un ensemble de points, un ensemble de chiffres, de telle sorte à ce que le modèle fonctionne pas trop mal. Et en fait, la façon dont on fait ça, c'est que on démarre à un endroit random et on se déplace dans l'espace des paramètres par itération. Fondamentalement, c'est vraiment pareil que si on se mettait sur des collines ou en montagne et qu'on se bandait les yeux et que on cherchait le point le plus bas de la montagne. A priori, la façon dont on s'y prendrait, c'est ben en ayant les yeux bandés, essayer de sentir la pente de la montagne sous nos pieds et essayer de se déplacer dans la direction qui descend ou qui monte selon ce qu'on cherche à faire. On fait exactement ça, sauf qu'au lieu de le faire ben en 2D ou 3D, on le fait en 7 milliards de dimensions ou plus, enfin plusieurs milliards de dimensions pour les LLM récents. Et là du coup ça devient coton, là ça devient vraiment difficile. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est que on sait que on est capable en fait de dire ben, en se déplaçant dans cette direction de l'espace, ça va améliorer mon modèle sur telle phrase ou sur tel comportement. Et donc l'idée, maintenant, le jeu, ça va être de trouver une phrase qui n'a rien à voir avec celle-là, mais qui va nous emmener dans cette direction de l'espace. Et c'est possible. C'est difficile d'expliquer pourquoi est-ce que, en fait, c'est hyper difficile, parce qu'en fait, ben voilà, encore une fois, je veux dire, le texte, c'est une unité discrète, donc il y a plein de méthodes de calcul qui deviennent interdites, du coup.
Par exemple, si on imagine comment tu ferais marcher ce système, c'est, tu aurais par exemple un système pour noter si tu as progressé ou pas dans ce que tu cherches à faire. Tu mettrais ta question, quel est le meilleur réseau social du monde ? Ton critère de notation, c'est que tu es MySpace qui apparaît ici dans sa réponse le plus souvent possible. Et après, j'en sais rien, peut-être tu fais un dataset avec genre des milliers de phrases relativement random et t'essayes de voir si parmi une d'entre elles, tu augmentes de 1% ta, la quantité de MySpace.
Ouais, ça peut
de manière itérative, ouais. Jusqu'à ce qu'à la fin, t'aies beaucoup de MySpace, et en fait, tu te rends compte que tes phrases, elles sont complètement random, mais pourtant, t'as progressé dans la bonne direction.
Tout à fait.
Ça, est-ce que c'est un peu cette idée
C'est un peu cette idée.
Mais en plus difficile, j'imagine.
Ouais, il y a des trucs en plus, il y a des étapes en plus. Mais ouais, c'est un peu cette idée.
T'as un moment, t'as parlé aussi de manipuler des algorithmes de recommandation. Là, pour le coup, c'est plus des modèles de langue, justement, c'est plutôt des trucs plus traditionnels qui servent à maximiser souvent l'engagement des utilisateurs, etc. C'est typiquement le genre de modèle dont on a l'impression qu'ils sont entre guillemets, bête et méchant maintenant, à savoir, bah, mon but, c'est de maximiser l'engagement des utilisateurs. Ça marche plutôt bien, ça dépend des réseaux, mais YouTube, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, par exemple. J'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher, justement, d'attaquer un modèle de recommandation.
Bah, en fait, il y a plusieurs façons d'attaquer des systèmes de recommandation. Il y a une attaque, notamment, ce qu'on appelle le shilling attack, où l'idée, en fait, c'est d'envoyer des informations au système de recommandation qui associe certains comportements avec des comportements existants. Et ça peut être par exemple le fait de regarder une vidéo et de tout de suite après regarder une autre vidéo. Ça, c'est des informations que YouTube capte, les trajectoires de navigation des utilisateurs. Et en fait, si on fait ça suffisamment de fois, avec suffisamment d'utilisateurs, c'est ce qu'on appelle de l'astroturfing. C'est en fait simuler un engagement d'un gros groupe d'utilisateurs, alors qu'en fait, derrière, c'est juste des utilisateurs qui ont 100 comptes chacun et qui font juste la même action sur les 100 comptes. En faisant donc de l'astroturfing, on peut influencer des algos de recommandation pour apprendre certaines associations. Et donc là, c'est le cas, je dirais, un petit peu zéro, mais faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, les algos de recommandation, ils utilisent aussi des réseaux de neurones. Et donc, en fait, on peut aussi imaginer qu'on puisse les attaquer de la même façon. Et ça peut passer par changer les métadatas, changer la description de la vidéo, changer la durée de la vidéo, changer la miniature de la vidéo. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut influencer pour derrière bah, influencer
les... On essaye déjà de faire d'ailleurs de manière normale.
Ouais, bah oui,
pas
c'est
à l'échelle.
Ça.
On le fait vidéo par vidéo, nous.
Ouais, et ben en fait, potentiellement, il y a moyen de le faire d'une façon statistique, j'ai envie de dire, et en fait, qui joue sur les faiblesses du modèle de recommandation.
Si je donne un exemple, ça voudrait dire qu'on pourrait créer 100 comptes YouTube et aller regarder des vidéos Hugo Decrypt, par exemple.
Ouais.
Et après, juste après, aller voir des vidéos de nous. Et ça ferait que tous les gens, petit à petit,
ouais,
on serait recommandés à côté de Hugo Decrypt.
Complètement, complètement.
Ah, et...
Ouais. Et en fait, c'est des trucs qui sont utilisés aussi par différents organismes. Il y a un papier que j'aime bien. Il montre en fait que c'est possible, avec une masse d'utilisateurs assez réduite, moins de 1%, même moins de 0,1% des utilisateurs, ils montrent qu'ils sont capables d'influencer l'algorithme de recommandation de Deezer. Les acteurs de la tech, Deezer également, ils en font partie, ils sont actifs dans les communautés recherche en machine learning et ils ont publié un papier où ils expliquent comment fonctionne un de leurs systèmes de recommandation qui est basé sur un transformer et donc ils expliquent.
Ils ont donné un peu de leur secret sauce interne, entre guillemets.
Ouais, ils ont expliqué, il me semble que c'est pour la recommandation de quelle chanson ajouter dans une playlist. Et en fait, ils montrent qu'avec pas beaucoup d'utilisateurs, on est capable de gagner beaucoup d'influence sur les recommandations et faire en sorte qu'une chanson qui va pas forcément être hyper populaire se retrouve boostée dans les recommandations.
Donc ils ont utilisé l'info qu'il y avait dans le papier de Deezer pour retourner contre
eux. En fait, ils ont combiné deux infos. Donc Deezer, ils ont publié ce papier en disant voilà, grosso modo, comment fonctionne notre système de recommandation. On vous donne pas les données, par contre. Mais Spotify, en même temps, à peu près, ils ont dit nous, on vous donne pas notre algo de recommandation, mais voilà les données qu'on utilise. Donc en fait, bon, voilà. difficile de brancher les deux ensemble.
J'imagine la thune que tu peux te faire avec un système qui te booste Deezer ou Spotify, là.
Ouais, aujourd'hui, les artistes, ils achètent des streams, mais en fait, il y a des. Donc, enfin, traditionnellement, ça va être dans des. Dans des click farms où il y a soit des gens qui cliquent, soit ils ont automatisé le process et c'est des téléphones qui streament en boucle. Ouais. Bon, faut savoir que les plateformes, elles font en sorte de détecter ces mauvaises utilisations. Autant, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui peuvent influencer les algos de façon beaucoup plus sophistiquée et qui, du coup, sont beaucoup plus difficiles à déceler.
Ce qui est trop intéressant, c'est que ça n'est possible que parce que tous les réseaux sociaux sont passés sur un modèle de recommandation, justement, et de maximisation de l'engagement par des algos de deep learning. Le fait que tu aies une petite quantité de gens qui puissent avoir une grosse influence, c'est typiquement ce qui fait aussi que le réseau marche super bien.
Ouais.
Parce que tu peux aller détecter des tendances avant tout le monde, des signaux faibles qui vont te faire permettre de faire percer justement un tweet ou une vidéo qui sont pas encore très connues. Et donc c'est ce qui fait que les réseaux sont aussi bons aujourd'hui.
Ce qui fait
à créer du divertissement.
Leur force, quoi.
C'est ce qui fait leur force, exactement, qui fait leur faiblesse, parce que ça aurait été impossible d'attaquer, en fait, le YouTube où ça marchait à l'abonnement.
Ah ouais, bonne question.
Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est une très bonne question. En fait, d'un point de vue théorie des jeux, on va dire, il y a aussi un champ qui est lié, qui s'appelle, on appelle ça mechanism design, où en fait, c'est un peu le problème inverse de la théorie des jeux. On se pose la question, comment est-ce qu'on doit concevoir les règles du jeu pour que les joueurs adopte telle ou telle stratégie. Donc en fait, à chaque règle du jeu, c'est stratégie optimale. Et donc potentiellement, avec d'autres modes de fonctionnement, il y a d'autres stratégies optimales qui permettent de gagner une influence disproportionnée. C'est hyper difficile à étudier comme système parce que ça change tout le temps. Mais ouais, il y a plein de stratégies possibles.
Moi, ce que je trouve ça fou, c'est que pour reprendre l'exemple de Deezer, là, tu nous disais que en fait, une action qui peut être intéressante pour toi, ta musique par exemple, ça va être d'écouter telle musique, puis telle musique, qui n'ont rien à voir avec tes musiques. Mais en fait, par un on ne sait quoi, ça fait que ton gradient, il se rapproche de plus ou moins de ta musique, pour simplifier. Et en fait, si tu fais ça 100 fois, potentiellement, ta chanson, elle sera quand même un peu plus recommandée. Alors que...
Tu peux être discret, quoi.
Tu peux être discret. Tu n'as jamais touché à tes musiques à toi. Je trouve
c'est
ça dingue. C'est juste influencer
la bonne zone du groupe
Ouais, potentiellement. Alors dans le...
Si je dis les mots.
Ouais, c'est compliqué.
Dans le papier que j'ai mentionné, là, en fait, il présente deux stratégies. La première, en fait, c'est de dire, la chanson que j'ai envie de booster, je vais la mettre juste après une chanson très populaire. L'autre stratégie qu'ils emploient, c'est exactement l'inverse. C'est de dire, la chanson que j'ai envie de booster, je vais la mettre au voisinage d'une chanson que personne n'écoute. C'est aussi ça qui est hyper marrant, c'est qu'il y a plein de stratégies qui peuvent se retrouver à fonctionner, à permettre de gagner de l'influence sur des modèles d'IA. Et c'est pas clair, en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne. C'est aussi l'aspect boîte noire de ces systèmes.
Pour moi, évidemment, le sujet évident qui nous reste à voir, c'est quelles sont les possibilités, comment on peut lutter contre tous ces problèmes et ces attaques qu'on mentionne, surtout dans un futur où, en fait, on est en train de remplacer petit à petit l'usage des moteurs de recherche par des chatbots partout, où les agents, pour des bonnes raisons, sont en train d'avoir de plus en plus d'accès, d'outils à leur disposition, etc. Je suis très chaud qu'on en parle. Juste avant, ce que je te propose, c'est de mentionner les quelques possibles aspects positifs de ces comportements et de ces empoisonnements. Et notamment, il y en a un, c'est une youtubeuse qui a utilisé cette technique pour empêcher les IA de scraper ses sous-titres.
Alors là, on est plus proche des questions de prompt injection, je dirais. Donc prompt injection, c'est vraiment lorsqu'on utilise le modèle, est-ce qu'on peut lui refiler des trucs qui vont être pris pour des instructions, voilà. Et en fait, c'est une youtubeuse qui s'est dit, en fait, j'en ai un peu marre que des blogs pourris fassent un résumé de ma vidéo et le reposent sur leur site comme si c'était du contenu à eux. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a exploité les possibilités qu'offre le système de sous-titrage. Donc, elle a utilisé plusieurs stratégies. L'une d'elles, par exemple, c'est juste une qui est facile à appréhender, c'est que dans ses vidéos, sur des écrans qui sont tout noirs, où donc il n'y a pas de contenu, elle va cacher plein de sous-titres en noir et en tout petit. Ça va être invisible à l'œil nu, mais pour quelqu'un de pas très précautionneux, pas très méticuleux, qui va juste aller, qui va télécharger le transcript de la vidéo et mettre ça dans ChatGPT et dit vas-y, fais-moi un résumé de ça pour que je puisse le mettre sur mon blog, bah en fait, ChatGPT, il ne va voir que ça. Il va voir des paragraphes et des paragraphes de qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale, qui parlent de fermiers au Brésil.
Le blog post n'a aucun sens.
Voilà, et ça finit par faire n'importe quoi. Donc c'est une façon de protéger ces données.
Et le dernier usage évident, c'est celui que tu mentionnais, et c'était un de tes sujets de recherche notamment,
ouais.
C'est de permettre aux ayants droit de traquer les gens qui utilisent leurs données, tout simplement.
Ouais, je pense que vous avez tous vu passer, tout le monde s'est mis à poster des photos d'eux en version Ghibli, en version Lego. On a eu du mal à comprendre pourquoi il y a eu un tel engouement, parce que ces modèles-là, je veux dire GPT-2, GPT-3, enfin moi je jouais avec, je trouvais ça hyper marrant, je générais n'importe quoi, je me demandais qui est Wassim Boisiz.
Là, ça a marqué quand même un petit avant-après, parce qu'avant, l'état de l'art, c'était toujours des modèles de diffusion sur les images.
Oui, tout à fait.
Et là, pour la première fois, on a un truc grand public utilisable qui dépasse de manière qualitative sur un avis humain, avec une autre stratégie de génération. Donc c'était intéressant. Au niveau des solutions, parce qu'on a donné beaucoup de scénarios catastrophes, quoi. Qu'est-ce qui est possible de faire si on prend, donc là t'as expliqué ce qui est en train de se passer dès maintenant. Est-ce que on a des espoirs sur la plus longue durée? Est-ce que la conclusion c'est en fait malgré que les LLM pourraient être des super bons assistants, utiliser des agents et envoyer des mails et que ce serait super génial, eh ben il faut pas le faire parce qu'il y a aucun moyen de la sécuriser. Est-ce que toi c'est ça ton avis? Ou est-ce que tu vois quand même des pistes pour essayer de que les deux soient compatibles?
Déjà réponse courte, non, c'est pas possible de se protéger contre ça. Je pense en tout cas. On a quelques raisons de penser ça. La principale, c'est le fait que les modèles aujourd'hui sont tellement gros que, en fait, on n'a plus moyen de garantir quoi que ce soit sur leur comportement. Les quelques papiers qui traitent sur les notions de robustesse, de privacy, enfin genre l'aspect vie privée en fait, ils se présentent tous à peu près sous la même forme. On a un joli théorème où on dit, ben voilà, on ne peut pas dévier le modèle de plus de telle quantité. Et on met une borne supérieure, on dit voilà, on met un plafond, on dit on peut pas modifier le modèle de plus que ça avec notre méthode. Mon encadrant donc à Polytechnique, il dit souvent plug the number, faites l'application numérique. En fait, si on fait l'application numérique, on se rend compte que ces bornes-là, elles veulent plus dire grand-chose. Parfois, c'est les hypothèses qui se cassent la gueule et voilà. Donc, on n'est pas capable de garantir grand-chose sur des modèles aussi gros que ce qu'on utilise aujourd'hui avec autant de données que ce qu'on utilise aujourd'hui, voilà. Maintenant, bah en fait, c'est comme tout, je pense que faut beaucoup d'entraînement et d'éducation et de sensibilisation sur ces questions-là.
C'est quoi ton avis sur justement une position qu'on peut entendre, qui est qu'en fait, c'est ce problème-là de sécurité et de soit d'injection de prompt ou de data poisoning, qui sont des choses différentes mais qui ont des liens, j'ai l'impression. En fait, c'est intrinsèque au modèle. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il marche maintenant. Et que, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut bosser sur la génération d'après, qui seront par design conçues pour pouvoir suivre des règles de manière fiable. Parce que si on tire le fil, là, si demain, tes robots, en fait, c'est la même chose, ils peuvent être data poisonnés. Et en fait, les règles d'Asimov, tu peux pas faire en sorte qu'ils les respectent. Donc, par exemple, qu'ils te butent pas ou des choses comme ça. Est-ce qu'on va vraiment vouloir concevoir des robots qui sont, entre guillemets, faillibles dès l'origine?
C'est une question compliquée. Alors, je suis d'accord en partie avec donc l'idée que t'as expliquée. Là où je suis pas d'accord, c'est sur l'aspect faut bosser sur la prochaine génération qui, elle, sera by design robuste, safe, etc. Ça, je pense pas que ce soit possible. Peut-être que quelqu'un trouvera une façon de concilier les avis de tout le monde, mais en fait, on a tous des avis qui ne sont pas parfaitement alignés, et c'est ok, sauf que juste en fait parfois sur certaines questions bien précises, ben ces avis sont vraiment diamétralement opposés. Ça peut être des préférences toutes bêtes sur comment faire le ménage par exemple, pour des robots qui feraient le ménage à domicile, mais ça peut être sur d'autres questions un peu plus touchy, et ben en fait c'est juste pas possible de concilier ces avis qui sont diamétralement opposés, et à un moment ben faut trancher, faut faire un choix.
Peut-être que c'est, en gros, si on résume ta position, tu me dis si je me trompe, mais c'est que c'est potentiellement inhérent à ce qu'on veut faire au LLM, c'est-à-dire on veut obtenir un maximum d'intelligence et de leur part, et que tout comme en fait un humain est super faillible, et qu'en fait quand il réfléchit, les humains sont pas super bien alignés non plus. Si vous êtes là, c'est que a priori le contenu d'Underscore vous plaît, et ça c'est peut-être grâce aux illustrations, aux schémas et aux archives que notre monteur passe des jours à assembler pour chaque émission. Et bah justement, on a besoin d'aide. On cherche à recruter des documentalistes ou des monteurs passionnés par le numérique qui veulent non seulement nous aider à améliorer la qualité de l'émission, mais plus encore la pédagogie en utilisant l'image. On s'est rendu compte que pour une émission technique, c'est vraiment très important. Si ça vous parle, envoyez vos références à team@micode.fr.